Hello, ici Guéric de Ternay, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour ce 30e épisode de Double Clic sur la mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'e-commerce. Pour ça, j'ai invité Anatole Rozan, le fondateur de Macoq et l'initiateur de nombreux autres projets e-commerce, dont l'outil de traduction Reversia. Ça fait des années que je connais Anatole, car son équipe a été en charge de la logistique de Goudron Blanc pendant quasi 2 ans. Il a été un pilier dans la croissance de la marque, car il était notre premier partenaire logistique. Je voulais avoir Anatole au micro de Double Clic sur la mode pour son regard avisé sur le e-commerce. En plus d'avoir lancé une première boîte e-commerce qui génère aujourd'hui plusieurs millions de chiffres d'affaires, Anatole l'a lancé quand il était encore au lycée. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, Anatole est également impliqué dans de nombreux autres projets, ce qui lui permet d'avoir une vision d'ensemble sur les meilleures pratiques dans le e-commerce. Dans une première partie, Anatole nous partage l'histoire de développement de Macoq. Puis, nous parlons acquisition, service client, logistique et enfin des outils tech pour le e-commerce. C'était super sympa d'avoir Anatole pour cet épisode et j'espère que vous allez apprécier. C'est parti! Anatole, tu es le fondateur de Macoq et l'initiateur de nombreux autres projets e-commerce. Bienvenue dans Double Clic sur la mode.
Hello Guéric, bah écoute, merci beaucoup de ton accueil et bienvenue à tous les auditeurs de Double Clic.
Donc, au cours de ces 10 dernières années, et même plus, tu as mené de front énormément de projets e-commerce, Anatole. Et je voulais savoir, c'est un truc qui, pour moi, est super difficile, c'est comment est-ce que tu fais pour choisir quel projet mener de front?
Alors, je suis plutôt guidé par mes passions et j'essaie de suivre, donc toujours dans un axe e-commerce, mais toujours suivre les tendances e-commerce. Donc, au tout début, c'était plutôt assez simple. Quand j'ai lancé Macoq, c'était la passion... et des nouvelles technologies et surtout des smartphones. Après, j'ai lancé d'autres marketplaces, une il y a quelques années qui s'appelle Les Échoppes, qui était une marketplace de produits fabriqués en France. C'était pareil, un peu une tendance aussi e-commerce. Et là, récemment, j'ai lancé une nouvelle startup, un logiciel, un SaaS de traduction de sites e-commerce avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'essaie de suivre surtout les tendances avec en fil rouge l'e-commerce.
Et quand tu lances Macoq, t'étais alors qu'au lycée. Quels étaient les grands défis que tu as dû rencontrer en lançant une boîte aussi jeune?
Ouais, j'étais donc au lycée quand j'ai lancé Macoq, j'ai lancé quand j'étais en première exactement, en 2012. Les difficultés, c'était surtout de suivre mes cours tout en ayant l'entreprise. Donc je travaillais très très tard le soir, le service client, je faisais tout seul. Heureusement, mes parents m'ont rejoint dans l'aventure. C'est devenu une entreprise familiale. Ils y sont toujours, donc ça c'est assez incroyable. Et heureusement qu'ils étaient là pour m'aider sur toutes les difficultés, que ce soit logistique, service client, voilà, toutes les problèmes qu'on peut avoir dans un e-commerce.
Goudron Blanc, c'est aussi une entreprise familiale et c'est vrai que la question qu'on me pose tout le temps, c'est mais comment est-ce que tu fais pour gérer ça en famille? Donc du coup, je te retourne la question. Comment ça se passe avec tes parents dans la même entreprise?
Ben, je pense que tout comme toi, déjà c'est hyper important parce que on a une confiance énorme dans nos parents et dans nos frères et sœurs, etc. Donc forcément, c'est des personnes qui vont en tout cas travailler pour la réussite du projet. Donc nous, ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé. Effectivement, tu as des hauts, des bas, tu peux avoir des dîners de famille qui s'enveniment quand il faut parler des objectifs de l'année. Mais non, ça se passe bien. Et puis vraiment, je trouve que c'est hyper important, cette confiance que tu trouveras jamais avec un collaborateur classique ou en tout cas pas avant de nombreuses années. Et voilà, je pense que c'est un truc qui aide énormément pour le développement de son e-commerce. Et si on peut, je trouve ça trop, trop bien de travailler en famille.
Pour moi, il y a un autre truc qui me vient en tête, c'est aussi un peu cette idée de pérennité. Parce que et je pense que c'est aussi un des éléments qui est fondateur pour la confiance, c'est-à-dire que en tout cas au sein de Goudron Blanc, il n'y a pas cette idée de bah voilà le collaborateur va se dire bah c'est une transition vers un autre job, je vais peut-être partir faire autre chose et tout ça. En famille, t'as vraiment cette idée, on y est ensemble et on y est pour longtemps. Et du coup, les décisions, la confiance que tu donnes est vraiment mise différemment.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis c'est vrai que ces liens familiaux, tu les as à vie, donc. Effectivement, ça aide, t'as peu de chance, en tout cas, t'as moins de chance que ton collaborateur parte pour de nouvelles aventures. Là, c'est au sein de la famille. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur la pérennité des projets et sur la stabilité surtout. Complètement d'accord avec toi.
Et comment est-ce que vous faites pour trancher lorsqu'il peut y avoir des désaccords ou des différences de vue en termes de stratégie?
Alors, je pense que j'imagine que c'est un peu pareil pour Goudron Blanc et pour toi. Nous, on a la chance d'être très très complémentaires. Donc, pour te décrire un petit peu plus, mon père, il va beaucoup plus faire la partie RH, logistique, administratif, tout le quotidien en fait du e-commerce, toute la partie day-to-day. Moi, je vais être vraiment sur la partie développement, tech, e-commerce, acquisition. Donc, on se complète et si tu veux, quand on est en désaccord, c'est assez rare puisque ça veut dire qu'il faudrait que ce soit un désaccord sur un sujet qui nous touche tous les deux, ce qui est très rare. Donc, en fait, on est vraiment dans cette logique de complémentarité. Et donc, en fait, ça nous arrive très peu. Et quand il faut trancher, ben, on s'engueule un peu. Et puis après, on trouve toujours une solution.
Au niveau produit, donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Macoq, vous proposez des coques de téléphone et beaucoup d'accessoires autour des smartphones. Comment est-ce que vous faites pour prendre la décision de lancer de nouveaux produits, lancer de nouveaux services?
Ouais. Donc, nous, on est un des leaders de la vente de coques de téléphone. En France, pour faire le choix des modèles, honnêtement, on réfléchit pas beaucoup. Surtout, notre objectif, c'est de proposer le choix de coques le plus grand au meilleur prix. Donc, on va essayer d'aller très 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 large en termes de choix et surtout faire tout pour économiser nos clients et qu'ils payent leurs produits le moins cher possible, tout en ayant cette sensation de choix et de pouvoir vraiment changer de coque quand ils veulent. Donc, on n'a pas vraiment de collection. On va pas essayer d'aller chercher des produits particulièrement différenciants, quoi. On va prendre le plus possible. Et surtout, ce qui compte, c'est que on ait ce choix et donc on n'a pas de vraie sélection comme tu pourrais avoir dans la mode et comme toi tu as, j'imagine, avec Goudron Blanc.
Effectivement, c'est une philosophie très différente parce que nous, on est vraiment à choisir avec beaucoup d'attention et créer nous-mêmes nos produits où on va du coup se limiter dans les collections. Non pas par envie de créer de la rareté, mais plutôt parce que y a des contraintes de production et on veut s'assurer qu'on fasse le mieux pour nos clients. Et là, effectivement, on est sur un modèle complètement différent où toi, la proposition de valeur, si je comprends, c'est vraiment plutôt sur le choix. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que vous arrivez à vous différencier? Parce que la coque, ça reste quand même un marché qui est méga saturé. Alors, bon, on est dans le monde du t-shirt, donc c'est également très saturé. La différenciation pour nous, elle vient vers la qualité. Mais vous, quels sont les éléments, les leviers que vous utilisez pour vous différencier sur un marché aussi saturé?
C'est vrai que sur ce marché, t'as plusieurs types d'acteurs. T'as des acteurs comme, par exemple, Rhinoshield ou autres qui sont plus sur de l'influence marketing. Nous, on va aller surtout, comme je te disais juste avant, vraiment sur le choix et le prix. Mais surtout le prix, c'est ça notre différenciant. On essaie aussi de proposer, et ça fera peut-être une transition sur la partie plus technique, en tout cas plus UX, UI, mais on essaye aussi de proposer une vraie expérience sur le site, essayer de proposer un parcours client qui est vraiment simple. En tant que client, tu arrives sur le site, tu vois un produit avec un prix généralement assez bas et une expérience d'achat qui est confortable. Et ça fait vraiment partie de notre différenciation. Aussi, souvent, on nous demande comment on fait par rapport au marketplace type Amazon, Cdiscount et autres. On est quand même un petit peu comme Goudron Blanc, on est vraiment un site de niche, un site de spécialiste. Donc en fait, nos clients, ils sont assez rassurés par aussi le nom, par le prix, par le fait qu'ils trouvent facilement le produit dont ils ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de téléphones avec des noms de plus en plus complexes. Donc on a vraiment cette simplicité globale dans l'expérience, et c'est ça qui fait toute notre différence.
Donc il y a vraiment un enjeu pour vous d'avoir ce nom reconnu maintenant aujourd'hui, cette idée de marque. Comment est-ce que vous gérez le branding de Macoq?
Alors honnêtement, on le gère pas beaucoup. Il est plus là pour rassurer. Donc, on n'a pas du tout développé de logo avec une particularité forte. On reste sur cette logique qu'a l'entreprise depuis très longtemps, de simplicité et pas de. On va pas tout miser sur la marque, mais plus sur l'expérience.
Du coup, il y a également un fort enjeu pour vous, pour faire revenir vos clients, pour en acquérir de nouveaux. C'est quoi vos leviers principaux pour y arriver?
Alors, on fait beaucoup d'email marketing, comme j'imagine une grande partie des e-commerçants. On utilise des outils d'automation. Donc, tout ça, c'est sur la partie email. Après, la classique, on fait de l'acquisition Google Ads et Bing. Et pour les faire revenir, surtout, ça se fait par email. Et généralement, dans tous les cas, ils reviennent puisqu'ils ont eu la bonne expérience et le bon prix. Donc, on n'a pas, à part de l'email marketing, pour les faire revenir, on n'a pas non plus développé grand-chose. Je pense vraiment que travailler une première, enfin, je pense que un client qui a déjà eu une très bonne expérience, il a quand même toutes les chances de revenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, mettre tout l'effort sur l'acquisition et sur la première commande. Après, effectivement, c'est toujours bien de relancer Mais nous, en tout cas, on met tous nos efforts sur la première expérience.
Ouais, la première impression, c'est ultra important. Et je pense que ce que je trouve le plus difficile dans le e-commerce, c'est que c'est pas comme en boutique où on contrôle beaucoup mieux l'expérience client. Il y a quand même un énorme élément qu'on ne peut pas contrôler, qui est notamment au niveau du transport, un peu une partie de la logistique. Et nous, c'est peut-être là où arrivent le plus de problèmes qu'on peut avoir. C'est qu'en fait, parfois, le colis, il est pas livré au bon endroit, il est perdu, il est livré trop tard, il y a du retard dans la livraison. Et ça rend en fait très difficile pour un e-commerçant d'assurer la bonne expérience, parce que c'est complètement hors de notre contrôle. Comment est-ce que vous faites pour gérer de votre côté ces problèmes, ces aléas qu'on peut avoir pour vous assurer justement de cette meilleure première expérience?
Donc tu parles en termes purement logistiques?
En termes logistiques et du coup ensuite, possiblement en termes de service client, quels sont en fait votre gestion de diminuer ces risques et également de les adresser directement quand il y a un problème qui survient?
Je trouve que tu vois, avec l'essor du e-commerce, on a perdu cette humanité et ce contact client. Nous, on essaye de tout faire pour que, donc comme en amont, donc cette première expérience, mais après, de tout faire pour que le client, à la fin, soit satisfait, mais surtout ait eu un contact humain au moment où il a eu un éventuel problème ou un éventuel retard. Donc, c'est hyper important chez nous. Alors d'abord, sur la partie logistique, on a tout internalisé et on le fait depuis le tout début de ma coque. On fait tout toujours à Rueil dans le garage des parents. Et là, donc, ça nous permet déjà de nous assurer que les colis partent bien, vu que ça vient de notre entrepôt. Donc, sur cette phase-là, c'est assez classique, mais on fait en sorte que toutes les commandes de la journée partent le jour même, avant 15h. Une fois que les coques sont envoyées à la poste, c'est redispatché à nos clients, le client reçoit un lien de suivi avec un numéro de suivi pour pouvoir suivre l'avancée de la livraison. Et après, si le client a le moindre problème, nous, on a vraiment tout mis aussi sur la partie SAV. Donc, on utilise une solution qui s'appelle Crisp, qui nous permet de faire à la fois du chat et à la fois de l'email, du SMS, des messages sur les réseaux sociaux. En tout cas, dès que le client a le moindre problème, il peut nous appeler, on est disponible, on a des personnes qui sont disponibles pour répondre aux besoins du client. Et surtout, tu vois, par exemple, si quelqu'un s'est trompé dans son choix, nous, on va essayer d'être le plus humain possible, on va lui offrir le retour, on va faire un retour gratuit. S'il a une coque qui est cassée, par exemple, ou qui est un peu abîmée, on va lui dire de conserver cette coque et lui en envoyer une nouvelle sans exiger un retour et des frais de sa part. Voilà, l'idée, c'est vraiment que le contact humain soit au centre, au cœur du projet Macoq, parce que c'est aussi nos valeurs familiales qui font ça.
C'est vrai que c'est super important de pouvoir avoir ce contact humain. Nous, pareil, on se retrouve avec des demandes parfois qui, forcément, peuvent être un peu incongrues. On va dire que on a beaucoup de gens qui vont nous demander des conseils sur les vêtements, des choses qui en fait n'ont pas à voir directement avec le produit en lui-même, leur commande, et on essaie de prendre un maximum de temps pour pouvoir les aiguiller et parfois recommander des marques concurrentes ou pouvoir leur donner des conseils qui n'ont pas nécessairement à voir avec nos produits.
Ouais, c'est hyper important. C'est vrai que sur Goudon Blanc aussi, il y a vraiment la partie blog et conseils en amont qui est hyper important.
Je me souviens avoir eu un échange avec toi parce que tu avais gentiment donné plein de compliments sur le blog et je sais que vous vous étiez aventuré dans le SEO. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué à faire?
Je suis toujours impressionné par ton talent d'écriture et ton talent d'acquisition SEO via le blog de Goudron Blanc. Nous, on le fait d'une autre manière, un petit peu. En fait, tout est assez logique quand tu me posais la question sur le branding. C'est un peu la même chose qu'on fait. Et on se contente surtout de proposer tellement de fiches produits. On sort à peu près 500 fiches produits par semaine. Qu'en fait, le contenu, il est plutôt là. On est vraiment sur de la masse. Donc, on fait pas d'articles de blog. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on devrait plus développer. On a stoppé le blog. On se contente surtout d'agrémenter de fiches produits. Un petit peu ce que ferait Amazon, par exemple, où eux, leur SEO, en fait, il se fait par la largeur de gamme. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, on n'a pas de vrai travail SEO. Et c'est en fait, finalement, ça fonctionne quand même pas mal de cette manière-là.
Ça reste un vrai travail SEO, mais effectivement, c'est pas un travail de contenu narratif, on va dire. Et vous êtes beaucoup plus sur l'optimisation du contenu lors de l'expérience client, même lors de presque la transaction. C'est vrai que c'est intéressant de contraster les deux modèles où nous, on est peut-être beaucoup plus artisanaux vu que on a moins de produits et on peut se permettre de vraiment tout faire vraiment à la mano. 500 produits par semaine, c'est énorme.
C'est énorme. Après, tu vois, sur la partie SEO, Je pense que souvent, on parle beaucoup d'optimisation de contenu, d'avoir des bonnes structures d'articles avec des H1, H2 et compagnie. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ces pratiques. Après, je pense qu'on oublie souvent que aussi, pour revenir sur l'expérience, mais c'est hyper important au moment où l'utilisateur va venir sur le site, qu'il trouve la réponse à son besoin, donc qu'on lui affiche un contenu pertinent. Mais je pense que c'est souvent négligé par les e-commerçants. On travaille beaucoup sur l'article de blog, mais en fait, Google, s'il voit que l'utilisateur reste longtemps sur la boutique, qu'il a l'air de trouver le contenu qu'on lui propose intéressant, qu'à la fin, il consulte beaucoup de pages, qu'il finit par un paiement, ça, Google a des algos pour détecter ce comportement-là et booste aussi le e-commerce. Il n'y a pas que les articles de blog et le pur SEO technique, il y a aussi l'expérience qui est valorisée en SEO. Je trouve que c'est souvent peu dit, les performances aussi, les performances de son site, c'est hyper important et vachement valorisé par Google.
C'est vrai que ce que tu dis sur les pages produits notamment et la réponse aux questions, ça vous permet, vous, de vous rapprocher beaucoup plus du moment où les personnes sont intéressées par acheter le produit en lui-même. C'est sans être trop technique, c'est ce que Google appelle le search intent, ou les SEO, enfin, les experts en SEO appellent le search intent. Et enfin, la recherche, l'intention de recherche, c'est un point où, en fait, quand on cherche un produit en lui-même sur Google, on s'aperçoit qu'en fait, on va tomber sur des pages produits ou des pages catégories plutôt que des articles de blog, etc. Et en fait, Google a réussi à catégoriser selon le type de mots-clés qu'on tape, le type de pages qu'ils vont montrer. Donc, si vous
Bien
avez
sûr.
les meilleures pages produits, que la personne cherche coq bleu pour iPhone, eh ben, vous allez apparaître bien en amont de gens qui vont écrire des articles de blog ou des choses comme ça sur ces sujets-là, parce que Google a compris qu'il fallait prioriser les pages produits pour avoir une réponse rapide à la question que la personne se posait.
C'est ça. Et je pense que la meilleure posture à avoir pour faire un bon SEO qui fonctionne, c'est vraiment se mettre, et ça je le répète souvent, c'est se mettre à la place de l'utilisateur et surtout se dire, vraiment à chaque fois se poser la question, et qu'est-ce que j'apporte à la personne qui va lire ce contenu? Et je pense qu'avec l'ère de l'IA, on a plus tendance à vouloir suroptimiser des contenus qui sont en fait pas lus et pas intéressants. Je pense que apporter encore une fois aussi ce rapport humain au contenu est hyper, hyper, hyper important. Parce que personne n'a envie de consulter d'articles écrits par intelligence artificielle, sauf par exemple pour des comparatifs, pour des contenus qui sont à lire très rapidement. Je pense que paradoxalement, l'IA va apporter encore plus de qualité de contenu humain et Google va, à mon avis, valoriser encore plus ce travail, de répondre à la question, d'apporter le plus de détails, cette empathie. Et je pense que justement, ça va se développer ça.
Ouais.
Et je pense qu'il faut peut-être prendre le truc à contre-courant et faire encore plus d'humain dans l'ère de l'IA. À mon avis, c'est une bonne manière de se différencier.
T'as complètement raison. Moi, la façon dont je traduis ça un peu dans ma tête et dont je mets en pratique dans notre stratégie de contenu, c'est pour nous rendre plus humain ce contenu, c'est partager des histoires qui sont de plus en plus personnelles. C'est-à-dire que l'IA va être très forte à un moment à donner des contenus factuels et à générer ça très rapidement, mais ne va pas être capable, ou en tout cas pas de façon honnête, de générer un contenu personnel, de partager des histoires, de mettre en perspective avec des histoires qui sont dans l'air du temps, ce qu'on peut observer. Alors, on parle beaucoup de mode sur le blog, mais ce qu'on peut observer dans la rue, enfin, ce qui est vraiment actuel, des histoires de personnes, de clients, de gens qu'on a pu rencontrer. Et c'est vrai que l'IA est beaucoup plus sur, comme tu dis, un contenu typique de valeur ajoutée avec l'IA, c'est des comparatifs. Parce que l'IA va être capable d'analyser X nombre de fiches produits et de te mettre ça en perspective et de te faire l'analyse de ce qui est différent entre chaque produit et quels sont les avantages et inconvénients en fonction de l'utilisation que tu peux avoir. Mais il ne va pas, en tout cas, de façon honnête, être capable de générer quelque chose qui raconte l'histoire d'un humain, d'une personne et qui soit vraiment personnel. On parle de SEO. J'ai vu dans certaines recherches en termes de réseaux sociaux, de SEO, il y a une montée énorme de TikTok, avec énormément d'utilisateurs en fait qui utilisent TikTok comme moteur de recherche. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à explorer?
On commence à l'explorer. Je trouve qu'on le fait pas assez à mon goût. Et effectivement, moi, je pense que pareil, il faut s'adapter aux tendances e-commerce et TikTok en fait partie maintenant et notamment Instagram, enfin en tout cas toutes ces plateformes de short content. Moi, ouais, il faudrait qu'on y aille. Il faudrait qu'on y aille. Je sais pas toi comment tu vois les choses, mais j'ai l'impression c'est quand même l'opportunité de présenter rapidement ces contenus d'une autre manière, un peu plus moderne. Faut pas qu'on loupe le cap. Donc c'est quelque chose qu'on explore. On n'a pas envie de se lancer trop vite sans apporter de réelles différenciations, mais on l'étudie. On l'étudie à fond.
Nous, on n'est pas parti dessus pour l'instant, et on va peut-être avoir l'air de boomer sur la question, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de marques tenter de le faire, et en fait, essayer de faire quelque chose que j'aime pas beaucoup, qui est d'essayer de comprendre un peu la culture TikTok et de faker cette culture pour créer du contenu où ils poussent leurs produits, ou d'avoir des vidéos qui, je trouve, sont pas vraiment authentiques et ont tout un but commercial. Et j'ai rarement vu des marques qui ont réussi à vraiment bien gérer sur TikTok. Souvent, ceux qui arrivent à émerger très rapidement sont plus souvent des influenceurs, des créateurs de contenu qui parfois vous vendent des produits sur le côté, mais qui sont d'abord là pour leur contenu et ensuite pour éventuellement certains produits qui vont vendre. Quand on est une marque, on voit beaucoup de marques essayer, tenter, et on voit que d'ailleurs leur contenu réussit pas autant que le contenu d'un ado qui est en train de parler du même sujet, mais qui est beaucoup plus honnête et authentique dans sa façon de le faire.
Ouais. Alors, tu vois, par exemple, je trouve que sur TikTok, il y a des contenus qui pourraient être intéressants, et nous, je pense qu'on irait plutôt vers ça. C'est un peu le côté backstage de ton entreprise. Je pense que c'est un super moyen de créer un lien avec tes clients pour vraiment montrer derrière comment l'entreprise fonctionne, qu'est-ce que c'est que préparer un colis, montrer, je sais pas, les équipes, faire une présentation des journées types chez Macoq, par exemple. Nous, on aimerait bien aller vers ça parce que ça permet d'apporter encore une fois ce côté humain, et aussi ça permet aux clients de vraiment se projeter et de se dire, oh, j'achète pas juste une coque sur un site, j'achète chez cette entreprise, cette petite PME qui travaille dans un garage, et on aimerait bien aller vers ça. Franchement, c'est quelque chose en plus qui est intéressant. On a vraiment l'impression d'apporter un vrai contenu qui pourrait intéresser. J'en vois pas mal passer. Je sais pas si toi c'est ton cas, mais je vois pas mal passer, par exemple, des vidéos d'unboxing, en fait, enfin, d'e-commerce qui montrent la préparation d'un colis, et ils disent, voilà, tel client a commandé telle chose, et ils montrent en live. Alors, c'est pas en live, mais ils montrent directement, en fait, comment la commande est préparée. Et je trouve que c'est un super levier pour la confiance et pour se démarquer des autres sur TikTok.
Complètement. Et c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, parce que y a des gens qui l'ont fait sur YouTube, sur Insta. Mais il y a un truc qui, je trouve, assez surprenant sur TikTok, c'est que le contenu backstage, il y a une question notamment au niveau de la longévité. Parce qu'une fois que tu as raconté énormément d'aspects de ton entreprise, il faut que tu continues à tenir tes auditeurs en haleine et à partager cette expérience tout en ayant des nouveautés. Et en fait, sur TikTok, j'ai remarqué beaucoup d'entrepreneurs, souvent des solopreneurs, qui vont montrer leurs produits. Par exemple, un truc qui est assez récurrent, c'est les baskets customisées, et ils montrent comment est-ce qu'ils les customisent. Et en fait, tu regardes leur feed, tu vois le contenu qu'ils mettent, et c'est parfois toujours le même type de vidéo. C'est toujours une basket blanche. Alors, certains éléments vont changer, mais ils vont être toujours en train de le colorier, de la machin. Et en fait, il y a une duplication du même contenu, du même type de contenu, quasiment à l'infini, et tu vois que les vidéos performent toutes énormément, et probablement pour les mêmes personnes. Donc c'est assez intéressant de voir la façon dont ça fonctionne, alors que sur YouTube, par exemple, il y a une attente de beaucoup plus de nouveautés à chaque fois, un nouveau format ou quelque chose d'un peu différent, qu'on a moins, je trouve, sur TikTok, où il y a plus de répétitions.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je ne saurais pas trop l'expliquer, je pense que c'est tellement rapide que je pense que tu en as beaucoup qui oublient ils tombent plusieurs fois sur le même contenu qui oublient que en fait c'est les mêmes vidéos ou c'est le même format et t'en consommes, tu vas tellement loin dans ta consommation de contenu et dans des univers que t'aurais même pas pu estimer quand tu te retrouves à, je sais pas, scroller des vidéos d'aventure, de pêche, alors qu'en fait tu à la base tu venais d'une vidéo de, je sais pas, une vidéo de danse. Je trouve que l'algo t'emmène vraiment tellement loin qu'en fait je pense que t'oublies et on te récupère en te repoussant une vidéo que t'as bien aimé. Et donc, en fait, ouais, c'est intéressant tout ça. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais en tout cas, je pense que c'est quand même important de pas le sous-estimer et de l'intégrer au cœur de son e-commerce.
Ma théorie qui est liée un peu à avoir lu aussi quelques recherches, c'est que c'est un peu une forme de drogue, parce que TikTok est créé pour exploser ton niveau de dopamine. Mais en fait, ton cerveau rentre un peu dans une sorte de zone. Tu vois, c'est peu importe le contenu qui est poussé, tant que c'est un contenu qui est visuellement plaisant ou quelque chose surprenant, incroyable, drôle et qui met constamment ton cerveau sous dopamine, En fait, tu regardes et tu scrolles et t'as pas besoin d'avoir quelque chose d'intelligent, t'as besoin d'avoir quelque chose qui t'apprend. Peu importe le contenu, les gens vont scroller et en fait, ils se retrouvent dans cette espèce de zone. T'es genre high on TikTok. Enfin, c'est quelque chose d'assez intriguant qui peut faire peur, notamment enfin au niveau sociétal. Comme tu dis, après en termes de marketing, bah il faut voir. Je pense que c'est là où il faut être aussi assez prudent en termes de comment est-ce qu'on joue avec ça en tant qu'entreprise. Nous, il y a un élément aussi de responsabilité. Pas promouvoir du contenu purement commercial et des choses comme ça. Et la publicité est faite pour ça. Après, il faut être assez honnête dans le contenu que tu mets en avant. Et c'est, je pense, assez la difficulté et l'équilibre qu'il faut trouver quand on pousse ça. Et comme tu dis, c'est une plateforme à considérer. Je vois énormément de petites entreprises qui réussissent. Et souvent, c'est les plus jeunes boîtes qui sont parfois construites autour de TikTok qui réussissent mieux qu'une grosse boîte qui a déjà énormément de capacités financières pour pouvoir créer du contenu, qui en fait va avoir des difficultés. Souvent, c'est le manque de ressources, je pense, qui peut aider aussi sur TikTok.
Ouais, je suis assez d'accord.
Je me demandais si vous travaillez également avec des influenceurs ou si c'est quelque chose qui pour vous ne fait pas partie de votre mix marketing.
On le fait aussi, pareil, j'y crois beaucoup. Donc, on envoie généralement des produits à des influenceurs qui en parlent sur leurs différents réseaux. On a pas mal développé, justement, t'en parlais aussi, on a développé une chaîne YouTube sur laquelle on essaie de présenter, tu vois, les meilleurs coques pour tel ou tel téléphone. C'est des vidéos qui fonctionnent bien. Et surtout, et ça fera un lien aussi avec TikTok, je pense que c'est important d'aller dans de faire des choses là où t'as moins de concurrents, en fait. D'aller dans des niches où t'as moins de concurrents. Et tu vois, sur YouTube, bah, t'en as pas beaucoup t'as pas beaucoup d'e-commerçants qui font des vidéos sur les coques. Alors, ça paraît pas intéressant dit comme ça, mais quand t'es dans une logique d'achat, de recherche de la meilleure coque, bah, t'es content de retrouver un top 10 des meilleures coques. Et tu vois, pareil pour les influenceurs, on essaie de trouver des influenceurs un peu plus originaux. Je trouve ça assez compliqué d'ailleurs de trouver le bon influenceur pour sa marque. Mais en tout cas, on essaie de pas faire ce que font tout le monde et d'aller dans des niches où il y a moins de concurrents.
Je me posais une question sur la façon dont tu t'es entouré. Et notamment s'il y avait une rencontre ou un partenariat particulier qui avait changé un peu la trajectoire de ta boîte, que tu avais apprise énormément. Pour moi, c'est une histoire où justement, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que peut-être la rencontre qui a changé énormément pour Goudron Blanc, c'était en fait de te rencontrer, Anatole, parce que pour la petite histoire, tu as pris en charge la logistique de Goudron Blanc pendant toute une période. Et pour nous, c'était une énorme transition parce qu'on est passé de gérer nous-mêmes la logistique à avoir un partenaire qui faisait pour nous. Et forcément, ça te demande de changer la perspective, la façon dont tu gères les choses. Avec toi, on a travaillé sur la mise en place d'un SKU, d'un code barre, de pouvoir en fait s'assurer qu'on standardisait certains éléments ou bah, quand c'était nous-mêmes qui le faisions, quand j'allais à la poste avec les commandes, bah, c'était fait complètement à la mano, c'était complètement customisé selon le client et il n'y avait pas de standardisation qui était nécessaire. On passe par un partenaire bah, comme tu l'as été pour Goudron Blanc, bah, il a fallu qu'on échange longuement pour pouvoir s'assurer que c'était fait bah, comme on le voulait de notre côté et puis comme vous pouviez le faire aussi du vôtre. Est-ce que de ton côté, il y a eu une expérience de rencontre ou un partenariat qui a vraiment changé la trajectoire de la boîte?
Ouais, c'est intéressant. C'est dur de trouver, la rencontre ou je pense qu'il y en a plusieurs. En tout cas, la rencontre, ça a été le CTO avec qui je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Jean. En fait, on travaillait sur un projet bah, sur Dili à l'époque, la marketplace avec qui on a commencé à travailler ensemble sur la partie logistique. Nous, on voulait faire un Amazon Biz. On s'était dit que on était tellement fort, on avait tellement réussi à vendre de coques, on pouvait tout vendre. Donc on s'est dit, allez, on fait une marketplace généraliste comme Amazon, on va tout donner et on va faire tomber Amazon. Alors très très ambitieux et bien sûr que ça a été un échec. Ouais. Et on s'est dit un peu, tu vois, le Amazon français, mais bon, t'avais ces discounts, donc on s'est quand même bien planté. Mais ça a été l'occasion de rencontrer cette personne, Jean, qui aujourd'hui est cofondateur de ma nouvelle solution de traduction. Je pense que c'est vraiment cette rencontre qui a fait que moi j'ai pris le virage beaucoup plus tech dans la partie e-commerce parce que c'est ça qui m'intéressait et d'être entouré de personnes plutôt dans la tech, c'est ce qui me permet aujourd'hui, on va dire, d'apporter quelque chose de différenciant dans l'écosystème e-commerce. J'ai un peu l'impression et je pense que c'est pareil pour, je pense que tu ressens ça aussi. J'ai l'impression que chacun apporte son expertise e-commerce. Pas être le roi de tout connaître, que ce soit de l'acquisition, de la tech, du design. Enfin, t'as toujours des personnes qui ont un peu une major, quoi.
Carrément.
Une spécialité. Moi, je me suis plus spécialisé dans la tech et c'est grâce à lui, tu vois. C'est un moment où tu prends des virages et des choix. Donc, je sais pas, toi par exemple, c'est quoi ta, tu dirais, toi, c'est pas, pour moi, c'est plutôt, toi, c'est la partie acquisition, SEO. Comme je te l'ai toujours dit, je suis assez impressionné. Et tu ressens ou pas, tu ressens ce truc-là ou pas en e-commerce?
Ouais, complètement, complètement. Je pense que, enfin, le plus important, quand on gère une boîte et qu'on soit un solopreneur, qu'on soit à la tête d'une petite boîte ou même d'une plus grosse, c'est vraiment de bien s'entourer et de savoir en fait quelles sont ses propres forces pour pouvoir ensuite s'entourer avec des gens qui vont driver les autres éléments. Et effectivement, le côté acquisition, après j'ai construit aussi au fil des années une bonne connaissance des produits qu'on vend. C'était peut-être pas le cas au début, c'était un peu un baptême du feu au départ. Et c'est vraiment les éléments ou les points où je mets vraiment l'accent. À un moment, je m'étais improvisé aussi photographe produit. Bah en fait, j'ai perduré assez longtemps jusqu'à ce que j'ai quand même pas mal de feedback me disant bah les photos elles sont sympas mais elles pourraient être un peu mieux. Et pareil, enfin gros changement quand on s'est entouré. Ça a l'air anodin, hein, mais quand on s'est entouré d'une professionnelle qui nous prend maintenant les photos et qui enfin a des rendus qui sont vraiment incroyablement mieux. Et peut-être le problème si je fais un peu de réflexion sur moi-même, et ça peut parler à d'autres personnes, c'est que j'arrive quand même à toucher à tout. Tu vois, on peut parler tech, on peut parler design, tout. J'arrive vraiment à toucher à tout. Et en fait, c'est quand on sait toucher à tout, c'est de se poser une limite et dire, OK, là, je sais le faire, mais je serai pas le meilleur. Qui est-ce qui peut m'aider à justement se dépasser? Pas juste le faire à ma place, mais m'enseigner et le faire mieux que moi pour que ça soit vraiment génial. Et l'exemple des photos, c'était vraiment top, quoi. On est allé bien au-delà de ce que j'aurais pu faire, même en y passant des heures ou des semaines, quoi.
Ouais, et ça se fait via des rencontres justement. Et,
exactement.
Et je pense que bah ça a été notre cas quand on s'est rencontrés, hein, sur la partie logistique. Effectivement, à un moment, on se disait, enfin, on pensait devenir des experts logistiques. Bon, ça a été, comme tu l'as vu, gros, ça a pas duré très longtemps parce que je pense que c'est quand même un métier qui est très très difficile et qui demande une exigence hyper importante. Mais on l'a fait à tes côtés et on était ravis de cette expérience ensemble. Et puis ça a été l'occasion de te rencontrer. Et donc c'est vachement bien.
C'était vraiment top. Tu as dit que justement tu te spécialisais plus côté tech. Je me posais la question de quel est votre tech stack, votre suite logicielle et IT sur laquelle vous vous reposez en e-commerce.
J'ai eu la chance de tester presque tout, ouais, tous les CMS e-commerce. Et toutes les manières de faire des e-commerce avec notamment du Shopify, du Headless, PrestaShop, WooCommerce. Enfin, j'ai tout testé. Donc aujourd'hui, je pense que sur la partie tech, bien sûr il y a des meilleures tech, mais surtout il faut adapter la bonne tech à son projet. Donc par exemple, une boutique qui n'a pas une vocation à devenir une boutique avec un gros catalogue, par exemple, qui n'a pas cette vocation-là, je conseillerais plutôt d'aller sur du Shopify ou du WooCommerce comme Goudron Blanc. En revanche, sur des projets un peu plus importants, PrestaShop, ça peut faire le job. Maintenant, Shopify le fait aussi bien parce qu'ils se sont améliorés et maintenant, on peut avoir des gros catalogues sur Shopify. En tout cas, nous, notre stack, c'est aujourd'hui sur Macoq, c'est PrestaShop. On n'a pas pour ambition d'aller vers du Shopify, mais peut-être qu'un jour, on ira. Et en revanche, je devais me relancer sur un autre projet aujourd'hui e-commerce. J'avoue que je serais quand même fortement tenté par du Shopify, justement pour cette stabilité. Et aussi cette facilité de lancer son activité, quitte à un jour partir vers du PrestaShop. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, mais malheureusement pour des technologies comme PrestaShop, c'est très, très, très plug and play et très facile de se lancer avec. Donc, en tout cas, si aujourd'hui, je devais me relancer en e-com, je pense que je ferais ce choix-là.
Ouais, c'est vrai que l'avantage, et on en parlait un peu en off avant, l'avantage de Shopify, c'est que... on y arrive tout de suite. On n'a vraiment pas beaucoup d'énergie à dépenser sur le côté tech. C'est facile d'utilisation. Et pour démarrer, c'est vrai que c'est ce que je conseille à beaucoup de gens. Après, nous, de notre côté, philosophiquement, on a un peu de mal avec le côté très SaaS et pas du tout open source de Shopify parce que y a une plateformisation du métier de gestion de contenu e-commerce. Et en fait, ça fait que on abandonne une grosse partie une grosse partie stratégique à une entreprise qui en fait cherche à tout faire pour continuer à vous avoir et peut avoir un contrôle, notamment en termes de coûts, sur les commissions qu'ils prennent. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont quelques difficultés en ce moment, notamment en termes de monétisation. Pas nécessairement en termes d'acquisition et de nouveaux clients e-commerce, mais en termes de monétisation. Et c'est une entreprise cotée. On est à la merci, en fait, de choix stratégiques en termes de paiement qu'ils peuvent faire. Et ça peut être pour des plus gros acteurs. Je parle pas de personnes qui commencent, mais pour un plus gros acteur, une grosse question stratégique, parce que c'est des volumes importants et ça peut vite coûter très très cher.
Ouais. En fait, tout ça est une affaire de cycle. Shopify, faut le dire, a marché, a fonctionné parce que, en fait, beaucoup de personnes voulaient créer des e-commerce pendant cette période. C'est encore le cas aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas de solution simple pour le faire. À chaque fois, il fallait assez vite quelqu'un de tech pour lancer son projet. Et Shopify a vraiment, vraiment, vraiment répondu à ce besoin-là. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus connus. C'est tellement plug and play que aujourd'hui, c'est normal que ça soit la solution la plus connue et la plus utilisée.
Ouais,
maintenant,
complètement.
Je pense que ça a rendu le métier d'e-commerçant beaucoup plus mature. Aujourd'hui, les personnes, moi je les vois dans mon réseau, hein, maintenant les personnes sont beaucoup plus professionnelles et rapidement, en fait. Donc je pense que ça veut pas dire que Shopify va être la solution encore à vie. Moi je pense que tout va se professionnaliser et on fera surtout des multiples solutions. Je pense que Shopify, ça sera pas, on va arrêter d'être dans une utilisation d'un seul CMS. Moi, je pense que tout va être, par exemple, tu auras ton CMS pour le back-office, tu auras ton front, et je pense que c'est ça le futur du e-commerce, en tout cas techniquement. Je pense que tu vas vraiment avoir plusieurs briques et plus une seule avec juste un CMS. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que maintenant que le marché est plus mature, tu vas choisir vraiment le meilleur back-office pour ton activité, le meilleur front-office, le meilleur ERP, et en fait, c'est plutôt ces combos qui vont, pour moi, être le futur du e-com, et plus seulement ton CMS, ton PrestaShop ou ton Shopify. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, je crois beaucoup à ça.
Il y a une grosse tension, en fait, dans le marché de ces plateformes et de suites logicielles. C'est que chaque suite et solution cherche à s'étendre et à s'étendre sur la chaîne de valeur. Donc, tu as des ERP qui vont te proposer aussi de faire le e-commerce, inversement, le CMS e-commerce qui va te dire je peux gérer tes inventaires. Et donc, ils cherchent chacun à aller un peu manger chez l'autre. Il y a la solution qu'ils aimeraient tous et ce serait un peu une solution de j'utilise seulement un seul outil et puis c'est tout. Et pour moi, ça revient un peu à se dire, tu vois, si t'étais dans la mode, je m'habille qu'avec une seule marque. Oui, tu peux le faire, mais c'est pas comme ça que t'auras ton meilleur look et tu seras dépendant de un peu la créativité d'une seule marque. T'arriveras pas à avoir nécessairement le meilleur que chaque marque peut proposer. Et ce que tu dis, la vision que t'as est assez correcte. Enfin, en tout cas, je suis en phase avec. C'est de dire comment est-ce que je peux trouver les meilleurs outils pour chaque élément stratégique que je dois mettre en place. Et ensuite, aujourd'hui, c'était peut-être moins le cas avant, mais aujourd'hui, les connexions entre outils se font quand même beaucoup plus facilement et ça devient plus facile, plus rapide et on le fait aussi de façon plus efficace de pouvoir les connecter et d'avoir ton ERP qui est connecté à ton CMS, etc., etc. Et t'as pas besoin d'une solution qui unifie tout.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, c'est exactement ça. On verra, hein. On verra si le temps nous donnera raison ou pas.
Exactement. Et puis il y a certainement des vagues qui vont arriver et puis on va aller plus vers du bundling et de l'unbundling, plus toute une solution d'un coup et toute solution différemment. Et on verra surtout notamment comment l'IA, gros sujet, va aussi être implémenté sur ces solutions.
Clairement.
Et ça me fait penser à justement ce dont tu parlais avec Reversia, donc ton nouveau projet, parce que tu intègres l'IA justement dans ces solutions, notamment PrestaShop pour commencer, j'imagine. Et c'est quelque chose qui pour moi je trouve assez intéressante parce que en fait l'IA sur des solutions un peu plus décentralisées comme pourrait l'être PrestaShop ou WooCommerce peut sembler être une faiblesse parce que c'est plus difficile d'accéder à l'IA quand on a ces solutions décentralisées que quand on a une solution centralisée comme Shopify parce que Shopify va l'intégrer, j'imagine, très rapidement et le fait déjà au cœur de son noyau, au cœur de sa plateforme. Alors que quand on a une solution plus décentralisée qui dépend énormément de plugins, comme PrestaShop ou WooCommerce, on a besoin, en fait, de ces plugins pour venir injecter cette dose d'intelligence. Raconte-nous cette histoire de Reversia, du coup.
Ouais. Reversia, ça part surtout d'un postulat de se dire, aujourd'hui, quand tu lances ton e-commerce, c'est pas normal que tu ne vendes qu'en France. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, il doit pouvoir se lancer dans l'Europe entière. Alors bien sûr, ça s'adapte pas à tous les e-commerce. Par exemple, dans la cosmétique, il y a du légal et c'est plus complexe. Mais par exemple, sur des vêtements, aujourd'hui, d'envoyer un t-shirt en Belgique, en Suisse, n'importe où dans le monde, c'est à part un prix de livraison différent, c'est la même chose. Donc bien sûr aussi, il y a du service client à faire. Et en fait, l'objectif nous de Reversia, si tu veux, c'est une solution que tu plugs à ton e-commerce et on va automatiquement traduire tout ton site et tu vas pouvoir appliquer des règles et typiquement ne pas traduire tel ou tel contenu, traduire cette collection, pas celle-ci. Donc tu vas pouvoir piloter toute ta traduction et dès que tu crées un nouveau contenu, ton produit va profiter des règles préétablies dans ton back-office. Donc en fait, travaille avec un freelance qui va te faire, qui va te définir toutes les règles, toutes les choses qui ont mal été traduites par l'IA et après, automatiquement, dès que tu lances un nouveau produit, il profite de ces règles et donc en fait, tu arrives à une traduction qui est parfaite. Et pour revenir sur ce que je te disais juste avant, nous, on a envie en fait de faire en sorte que les e-commerce, day one, dès qu'ils se lancent, soient partout en Europe déjà, avant d'être dans le monde, mais déjà en Europe. Et c'est tellement logistiquement, les problèmes ont tellement été résolus qu'aujourd'hui, c'est pas normal que des e-commerce ne soient présents qu'en France. Et souvent, ça fait peur, mais c'est plus une peur qu'autre chose, puisque vraiment, nous, on le voit, on a des clients, ils viennent chez nous, ils font que du français au début, ils arrivent chez nous et ils ont lancé 9 langues en 2 mois. Et aujourd'hui, ils ont pu tester des marchés, ils vont chercher du chiffre d'affaires complémentaire, puisque aujourd'hui, avec les crises qu'on traverse, avec l'inflation, tout ça, on a quand même un secteur économique qui est en tension. Ouais. Là, c'est du chiffre d'affaires complémentaire. Donc voilà, nous on essaye de démocratiser cette vision-là, et je pense que c'est important de le faire parce que c'est pas possible aujourd'hui de vendre qu'en France. Je pense que hors cas particulier. Voilà, donc on répond à ce besoin. Et sur Macoque, tu vois, ça venait, cette solution elle est venue parce qu'on l'avait mis en place sur Macoque en 2022. On cherchait une solution de traduction, on n'en a pas trouvé, et c'est pour ça qu'on a développé Reversia et qu'après on en a fait une entreprise. Et tu vois, pareil, Macoque, on a lancé 9 pays en 2 mois. Et aujourd'hui, par exemple, un pays qui fonctionne bien chez nous, c'est le Portugal. Jamais on aurait pu imaginer un jour pouvoir embaucher un traducteur portugais pour traduire le site. Là, on l'a fait avec l'aide de notre solution et c'est devenu le pays, après la France, le plus gros pays chez nous. Donc voilà, je pense que c'est hyper important l'international. L'IA nous aide encore plus, comme tu le disais, l'IA nous aide encore plus pour développer ce segment-là. Voilà, pour en tirer profit.
Génial, j'adore l'histoire. Pour moi, c'est, enfin, au-delà même de l'histoire, de la solution en elle-même, l'histoire technologique, le besoin de l'entreprise de s'internationaliser, c'est aussi en fait une histoire quasiment nationale et française pour pas y aller. C'est que permettre à de nombreuses petites boîtes e-commerce de s'internationaliser et d'exporter, en fait, est ultra important pour redynamiser l'économie française. Et sans vendre la peau de l'ours et aller viser un peu trop haut, c'est quelque chose que vous permettez avec Reversia. Je me posais la question en termes plutôt détaillés et technologiques. Comment est-ce que vous gérez la création de ce contenu traduit? Est-ce que c'est une couche supplémentaire sur une page? Est-ce que vous dupliquez des URL avec le contenu traduit? Est-ce que vous demandez à avoir plusieurs sites avec le .fr, le .pl ou enfin comment ça se passe?
Ouais, on s'adapte à tous les domaines. C'est vrai que tu vois, tu parlais des URL, c'est vachement complexe les URL parce que quand tu te retrouves à devoir traduire un contenu avec un lien, tu peux pas traduire le lien, sinon tu vas arriver nécessairement vers une page 404. Donc en fait, nous on va aller chercher la bonne URL de la bonne boutique et ça c'est un des freins qu'on a enlevé et qui était compliqué pour nous parce que techniquement c'est assez complexe. Donc on s'adapte à tout type de domaines, tout type de, on fait aussi tout type de langues. Hein. Donc en termes de contenu, on va vraiment essayer de faire en sorte que il soit parfaitement traduit. Et puis quand t'appliques toutes ces règles là sur ton back office Reversia, ça te permet après de qualifier ta traduction.
Et aujourd'hui, avec l'IA, il y a énormément d'API qui sont développés. On peut accéder à ChatGPT, DeepL. Est-ce que vous avez votre propre modèle? Est-ce que vous intégrez avec des IA? Est-ce que les gens peuvent choisir le type de modèle qu'ils veulent utiliser?
Ouais, en bêta, on utilisait DeepL parce que c'était plus pratique et que c'est vachement performant sur la partie API. Donc parce que le DeepL gratuit est différent du DeepL Pro API. Nous, il fonctionnait bien, et là, on est en train justement de développer, en fait, avec l'essor des LLM comme Mistral, Llama 3, on essaye de développer une solution où, en fait, toi, en tant qu'e-commerçant, tu aurais ton propre LLM qui traduirait en fonction de tes propres prompts, de tes propres besoins, et que chaque client ait son propre, son propre LLM et ses propres règles. Et t'aurais des, tu vois, tu pourrais arriver sur des trucs, par exemple, j'aimerais plutôt que tu ailles vers du vouvoiement. Donc, ce serait des règles un peu plus larges. Ça te permettrait d'appliquer des couches de traduction un peu plus fines que typiquement de dire je veux pas que tu me traduises ce mot par ce mot. Voilà, donc on cherche à créer cette expérience-là, et on va la sortir là dans un mois, donc on est ravis.
Ouais, c'est un sujet ultra important, notamment pour les marques qui sont très incarnées, qui ont une forte personnalité, parce qu'il faut tenir le ton, aussi bien en français qu'en anglais qu'en portugais. Donc par exemple, si tu as une marque qui a un ton plutôt humoristique, une marque qui va plutôt être sur le très très sérieux, il faut que la traduction en suive. Quand il y a un traducteur professionnel impliqué, ça marche. Mais du coup, ça, quelqu'un qui le fait à la mano, c'est un problème quand il y a beaucoup de quantité. Tu parlais pour vous d'avoir 500 fiches produits créées chaque semaine. Tu peux pas avoir un traducteur qui suive ça comme ça. Mais par contre, effectivement, tu es obligé. Il est mieux quand tu te mets à traduire automatiquement avec des solutions d'IA de pouvoir tenir cette tonalité de marque. Et c'est top de voir que vous travaillez déjà dessus.
Ouais, et j'ai hâte de voir ce que l'IA va apporter au e-commerce. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui commencent là. Nous, on le fait par exemple avec Macoq. On a développé notre propre solution de rédaction de fiches produits avec IA. Donc bon, là, on le garde en interne, mais je sais pas comment toi tu vois ça, mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont être remplacées. Tout ce qui est photo aussi, t'en parlais. T'as des solutions maintenant qui te permettent de faire des modèles 3D automatiques de tes produits. Tu le vois comment toi? Parce que je sais pas, je vois plein de choses passer, mais je sais pas jusqu'où ça va s'arrêter, quoi.
C'est ouf. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y a un côté génial pour commencer par le positif, qui est le fait que ça donne la possibilité à énormément d'indépendants, de solopreneurs, de gens qui veulent démarrer, d'avoir accès à une qualité qui est juste incroyable en termes de création graphique, en termes de création de site. Maintenant, il y a des solutions qui automatisent ça aussi énormément. Création de contenu pour avoir un contenu qui est de qualité. Peut-être qu'il peut manquer parfois d'éléments humains, comme on en parlait un peu avant, mais qui déjà te donne une très bonne base. Et en fait, tu te retrouves à pouvoir être à la tête d'une équipe de 2-3 personnes, ou même tout seul, et à aller plus vite que le ferait une équipe de 15 personnes dans une énorme boîte qui gère tout un site e-commerce ou qui veut lancer un nouveau projet. Et je trouve ça fantastique. Après, peut-être que le côté négatif serait vers la surutilisation de l'IA. Et encore une fois, c'est vraiment la question de l'authenticité du ton. Mais ça, c'est quelque chose qui se contrôle à la fin. Parfois, on dit oui, l'IA ne rédige pas des textes de qualité comme pourrait le faire un humain, mais pour avoir parcouru énormément de blogs ou de sites e-commerce, pour être honnête, le contenu créé au kilomètre, c'est pas nouveau. L'IA va certainement multiplier ça énormément, et on espère que les moteurs de recherche, dont Google, vont aider à filtrer. Le contenu banal et les gens qui cherchaient à créer des blogs pour créer des blogs, ça a toujours existé et c'est transparent. Et l'IA, si ce n'est, améliore ça parce que quelqu'un qui faisait des blogs ou des pages produits vraiment au kilomètre le faisait probablement moins bien que l'IA le fait aujourd'hui. Ensuite, où est-ce que ça va aller? Honnêtement, quand on voit déjà où on en est, alors que les sujets d'IA ont commencé, on va dire, fin 2022, c'est vraiment là où ça commençait à exploser avec ChatGPT, même si les technologies existaient déjà, on est arrivé à un seuil. Quand tu vois en 18 mois, 24 mois, ce qu'on a pu faire, et là où on en est déjà aujourd'hui, on peut se dire que on est aujourd'hui, et c'est le cas pour chaque jour, à l'état le plus mauvais de l'IA. Mis à part si il y a quelque chose qui change complètement, parce que les données utilisées pour entraîner ces IA, c'est un gros problème aujourd'hui, se dévalorise parce que justement l'IA se nourrit elle-même et du coup ça diminue la qualité. Et d'autres potentiels bloqueurs qu'on peut voir, notamment au niveau législatif, parce qu'il y a aussi énormément de questions au niveau du copyright et de la propriété de données et du droit d'auteur. Ça peut n'aller que vers une augmentation de la qualité. Enfin, on peut utiliser Midjourney pour créer des photos de personnes. Enfin, ça remplace toute utilisation de mannequins. C'est juste incroyable. Et on est encore, je pense, maintenant, toujours sur des éléments très généralistes, parce que les plus gros modèles restent généralistes. Mais le moment où on va aller vers plus de customisation, soit pour les API, soit parce qu'il y a des boîtes qui vont vraiment spécialiser, on peut imaginer tout à fait un monde où, en fait, si tu as une marque de vêtements, avoir une photo avec un mannequin, c'est aussi facile que quand tu commences un jeu de rôle, un jeu vidéo, et que tu dois changer les vêtements de ton mannequin, enfin de ton avatar ou de ton la personne que tu incarnes, le personnage que tu incarnes, et tu changes. Tu dis bon bah là aujourd'hui j'aimerais que machin, et tu vas juste comme ça ultra rapidement. Il faut qu'il sourie un peu plus et tout ça. Enfin tu pourras customiser tous ces paramètres. Aujourd'hui on est obligé d'utiliser énormément de prompts, mais on peut voir que ça va potentiellement très rapidement devenir des boutons en fait. Ouais. Tu changes ça en 3 secondes et t'as beaucoup plus de contrôle. Aujourd'hui il y a encore beaucoup d'aléas. Et ce qui manque, c'est effectivement le contrôle et la possibilité de répliquer facilement.
Mmh, ouais. Et tu vois, à titre perso, je t'avoue que l'IA, c'est pour avoir connu, moi, ça fait quand même depuis que je suis tout jeune que je suis dans la tech, dans l'e-commerce et tout. Et je me souviens de mes années où je faisais des sites internet dans ma chambre et t'avais un côté un peu bac à sable qui commençait à se perdre. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'avec l'IA, ça rebat toutes les cartes. T'as tellement d'opportunités, de nouveaux projets à lancer, finalement, ça booste aussi la créativité entrepreneuriale. Ça te permet d'aller dans des projets que jamais avant t'aurais pu, auxquels jamais t'aurais pu penser avant. Et je trouve ça génial. Je pense qu'il faut être positif et qu'il faut bien l'accueillir. Et ça va nous permettre de développer encore plus de choses, d'avoir un site encore plus qualitatif, comme tu disais, avec des. Je pense que tu vois tes photos, elles seront encore plus qualitatives grâce à l'IA. Et ouais, il faut. Je pense que faut le voir du côté positif, en essayant bien sûr de veiller au copyright et aux abus que l'IA va apporter. Mais non, je suis profondément positif par rapport à ces technologies-là, et je pense qu'on va avoir des expériences encore plus qualitatives, en tout cas sur la partie e-commerce. Donc à nous de développer encore plus de projets, et puis après, sans parler de la VR, là il y a les précommandes du Vision Pro d'Apple qui ouvrent à 14h aujourd'hui, tu vois, ça fait partie encore une fois d'un bac à sable énorme et de multiples projets à faire et à développer et d'expérience e-commerce.
Tout à fait. Écoute, c'est sur ces super belles paroles que j'ai envie de terminer l'épisode. Un grand merci Anatole d'être venu au micro de Double Clic sur la mode, et puis à très bientôt. Hâte de voir la suite que l'IA nous réserve.
Merci beaucoup Garrick. Bonne journée à toi.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que de nouveaux épisodes arrivent bientôt et je suis vraiment impatient de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à Double Clic sur la mode. Et n'hésitez pas à laisser un avis pour me dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. J'aimerais également vous parler un peu plus de Goudron Blanc. Depuis près de 10 ans, Goudron Blanc s'efforce de répondre aux attentes des hommes en quête de vêtements de qualité. À l'époque, en 2011, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cette idée de t-shirt idéal qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. Je voulais créer un t-shirt bien coupé, avec un tissu épais, ultra doux et des couleurs faciles à porter. Honnêtement, je suis très fier du résultat, car nous recevons régulièrement des compliments des clients qui ont été conquis par la qualité des t-shirts. Mais assez parlé. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur notre boutique en ligne pour découvrir tout ça par vous-même. Rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.